Entretien, Anne Constantin, RCF Charente.
Jean Charbonneau, bonjour.
Bonjour.
Jean Charbonneau, vous êtes conférencier connaissance du monde depuis 8 ans seulement, mais vous avez 30 ans de vie de conférencier, après être passé par la psychologie, la photographie.
Un long parcours et 31 ans de conférences. Je crois que j'ai dû faire plus de 2000 conférences à ce jour.
Alors, votre domaine de prédilection? Parce que la psychologie ne menait pas tout à fait à ça?
Non, la psychologie mène à tout, en fait.
Et vous êtes Vendéen, on va dire. Les Vendéens, on accepte de s'expatrier facilement.
Oui, on n'est pas loin de la mer. Mon goût, ça a été le voyage, véritablement, l'Asie. J'ai visité 13 pays d'Asie, j'ai passé 20 ans à sillonner toute l'Asie, et principalement la Chine. J'ai passé, quand je mets tout ça bout à bout, 3 ans en Chine. Je parle chinois. Wuhuishou Zhongwen.
Bonjour.
Et un jour, petite histoire, un jour, je prends le métro à Pékin. Je trouve par chance une place assise, parce qu'à cette époque-là, c'était bourré à chaque fois. Donc je me précipite pour faire plus vite que le chinois d'à côté, pour trouver la place, je m'assois. Et donc j'entame une petite conversation avec la voisine pour essayer de voir si ma destination était la bonne. Et elle me répond en français. Ah ! Et là, du coup, je me dis non, c'est pas possible. J'ai dû rêver, j'ai dû abuser de la tisane ce matin. Reprenons-nous, soyons sérieux, anglais. Je lui parle en anglais et elle me dit non, que le français s'il vous plaît. Mmh. Et alors, grand hasard, elle était enseignante et elle avait fait des études dans un lycée expérimental à Pékin où on essayait le français en langue étrangère à la place de l'anglais, du japonais ou du russe. Et donc, vous vous doutez qu'il a fallu en savoir plus. Et je suis toujours en interrogation, parce qu'elle est devenue ma femme.
C'était providentiel.
Et ce jour-là, donc avec un ticket de métro, je gagnais un ticket pour une femme et un ticket pour l'Australie.
L'Australie, pourquoi?
Eh bien, parce que ma femme, quand elle m'a rejoint, c'était juste après Tiananmen, en 1990. À quelques mois près, sa sœur, qui s'appelle Tong Xiaoming, décidait d'émigrer en Australie. Donc, la famille explosait dans 3 coins du monde, comme ça. Et donc, il s'est passé un certain nombre d'années sans qu'on en sache plus, véritablement. Et puis, un jour est venu où on s'est dit, eh bien, il faut aller voir la sœur, la belle-sœur. Et donc, on s'est acheté un billet d'avion. C'était en 2002. Pour aller en Australie. Au départ, c'était pas un pays pour me plaire, parce que moi, je me complaisais dans toutes ces cultures asiatiques, bouddhistes, hindous, le berceau de plein de philosophies et de religions. Et j'aimais bien cet esprit, ce mode de vie asiatique au sens général. Et ces pays à l'américaine, McDo et compagnie, c'était pas fait pour me plaire. Et donc, je suis arrivé là-bas, mais j'ai senti un esprit assez décontracté, en la matière d'ailleurs de mon beau-frère, Hugh Babington, son nom, qui est un personnage très très sympathique, a un peu plus de 70 ans maintenant, et très jovial et très décontracté, à l'image de beaucoup d'Australiens en réalité. C'est pas les excités de la ville, ce sont des gens assez relax, on peut facilement discuter avec eux, et même discuter longtemps.
Donc c'était le deuxième coup de foudre de votre vie, l'Australie, on va dire.
Exactement. Premier, la Chine, deuxième, l'Australie.
Jean Charbonneau, donc l'Australie, parlons-en. L'Australie, c'est la plus grande île du monde, déjà.
Exactement. Comme on dit là-bas, down under. Dans le bas, sous le globe terrestre. C'est vraiment au fin, fin fond du monde. Et c'est la plus grande île du monde qui fait presque 15 fois la France en superficie. Donc c'est énorme.
Et néanmoins, il y a 3 fois moins d'habitants que la France.
Oui, 23 millions d'habitants. Il faut dire que le pays est globalement désert quand même. Hein. Et donc, on peut difficilement vivre en nombre dans le désert. Donc, c'est comme ça, parce que c'est vrai que le pays a des ressources qui sont faibles, notamment l'eau potable, par exemple. Une ville comme Sydney ou Adélaïde a dû construire des usines de désalinisation de l'eau de mer, parce que l'eau ne suffisait pas. Sachant aussi que quand on a des gens qui habitent, il faut les nourrir, donc il faut des légumes. Les légumes, on les irrigue. Et donc voilà le problème.
Alors c'est le pays de tous les possibles quand même, et le pays aussi qui a une ancienneté, la population a près de 50 000 ans. Hein.
C'est ça, tout l'ambiguïté de l'Australie, c'est d'une part avoir ces aborigènes qui sont arrivés, paraît-il, autour de 50 000 ans en Australie.
Venus de Papouasie, on dirait.
Voilà, pour une part de Papouasie, Nouvelle-Guinée, pour une autre part du sous-continent indien, c'est-à-dire du Cap York d'un côté et du Kimberley de l'autre. Et donc c'est là-bas d'ailleurs qu'on voit des fresques assez étonnantes qui datent de plus de 20 000 ans probablement.
Plutôt mélanésien donc.
Plutôt mélanésien, des populations noires avec des cheveux crépus, des nez très écrasés.
Et la deuxième vague de population n'est venue que bien tardivement, on va dire, à partir du 17e, 18e siècle.
En 1770, il y a le navigateur James Cook qui passe par là-bas. Il n'est pas le premier, des Hollandais sont passés avant, mais personne s'est vraiment intéressé à cette terre aride, désertique, sans intérêt. Et ce James Cook, il est passé là, il en a fait un rapport un peu plus précis, mais ça n'a pas été un déclencheur véritablement, puisque ce n'est que 18 ans plus tard, que l'Angleterre décide d'envoyer des colons. Et en réalité, le vrai fait déclencheur, c'est que l'Angleterre venait de perdre ses territoires en Amérique, elle venait de perdre ses grands espoirs en Amérique. Elle avait, à cette époque-là, on avait la main dure. Pour un simple pain volé, ça vous valait 3 ans d'exil n'importe où, on dirait, puisque dans un premier temps, ils envoyaient les forçats sur des côtes africaines. Et ça se passait mal parce que il y avait une perte énorme, ils mouraient de malaria, etc. Et donc, ils recherchaient une terre pour envoyer leurs forçats. Et c'est là qu'ils se sont dit, tiens, on va les envoyer dans un premier temps en Nouvelle-Hollande. C'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque.
Alors donc, c'est peut-être pas une population très aimable.
Pas vraiment. Et d'abord, beaucoup d'hommes, mais on avait pris soin de mettre quand même un certain nombre de femmes, mais le quota n'était pas tout à fait respecté. Quand on rencontre aujourd'hui des Australiens de souche, on va dire, enfin déjà de multigénération, vous avez affaire à deux catégories. Ceux qui ont été des repris de justice, pas très reluisants, et puis ceux qui étaient du côté des gardiens, soldats, policiers, quoi. Donc il y a vraiment deux mondes.
Alors donc les pas très recommandables et les très coincés, est-ce que c'est ça?
Eh ben voilà, exactement. Et c'est pour ça que il y a un personnage qui est toujours assez représentatif en Australie. Il s'appelle Ned Kelly. On en a même fait des téléfilms là-dessus. C'est une sorte de Robin des Bois, mais en gros c'était quand même un voleur des grands chemins, quoi. Mais il a eu un capital sympathie énorme. Bon, il a fini massacré par la police. Il a pas eu une durée de vie très longue, ce gars-là, mais il a un capital sympathie très important en Australie. On voit des petits posters un peu partout dans l'outback australien consacré à Ned Kelly.
Alors, comment bâtit-on une société avec tous ces contraires, tous ces antinomiques personnages?
Il faut dire que la société australienne, c'est la société blanche. Et dans ces courants de pensée du 19e, c'était les courants de pensée darwiniens. On n'avait pas trop d'état d'âme pour ces petits peuples. On a voulu penser que de toute façon leur culture allait être avalée facilement par la société blanche. Et finalement, elle a résisté au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et il n'en reste pas moins que les aborigènes sont quand même des laissés pour compte, un peuple meurtri, qui n'a acquis la nationalité australienne qu'en 1967.
L'Australie fait partie du Commonwealth. C'est-à-dire la reine d'Angleterre et la reine d'Australie.
Oui. Les Australiens qui aiment bien châtient bien. Vous savez, ils les appellent les Pumps. Les Pumps, ça veut dire Prisoner of Her Majesty. Les prisonniers de sa majesté. C'est-à-dire qu'ils ont retourné le fait que la plupart des Australiens soient des prisonniers, des forçats, en se disant que eux, les Britanniques, maintenant, sont des prisonniers de cette hiérarchie royaliste. Voilà. Et donc, ils chambrent un petit peu les Britanniques là-dessus, en leur disant, vous êtes vraiment des laquais de la reine, alors que nous sommes des cow-boys libres.
Néanmoins, Jean Charbonneau, vous avez commencé par cette région qui est la plus, on va dire, anglo-saxonne, Brisbane.
On va le dire franchement, j'aime pas trop les villes en Australie. Il y en a quelques-unes qui méritent le détour. Sydney, très sûrement. Melbourne, sans doute aussi. Brisbane, c'est déjà un peu plus petit. En quelques jours, on a à peu près compris. Et c'est pas là qu'est vraiment l'exotisme. Ce sont des villes modernes, avec des centres-villes piétonniers. Et franchement, c'est pas extraordinaire. Quand on se tape 22 heures d'avion, on attend plus. Et quand je me suis retrouvé en Australie, progressivement, j'ai compris que c'était la nature. Et ce qui me fait rêver, c'est vraiment la nature au sens très large du terme, c'est-à-dire toutes ces forêts d'eucalyptus, ces couleurs très rouges en certains endroits, ces animaux vraiment extraordinaires qu'on ne voit qu'en Australie. Et puis, même si c'est pas à cadrer typiquement dans le côté nature, ce sont les aborigènes qui sont la culture vraiment traditionnelle. Donc c'est vraiment toutes ces sources-là de base australienne qui, moi, me plaisent.
Donc vous avez fait le chemin inverse de la civilisation, entre guillemets, Jean Charbonneau, vous êtes parti donc de la colonie la plus anglaise, Brisbane,
oui.
Et vous êtes allé, vous avez cheminé en 4x4 jusqu'aux aborigènes.
Jusqu'au plus profond qu'on puisse aller dans la nature australienne. Et j'ai réalisé un rêve. C'était ce rêve que je voulais faire depuis longtemps, c'est d'aller sur ces pistes inconnues, où il faut être un petit peu fou, en tout cas bien préparé pour y aller, parce que il y a quelques risques, mais c'était ce rêve-là d'immersion dans la nature, c'est extraordinaire. L'Australie, c'est ça.
Alors, l'Australie sur les pistes du rêve,
oui.
C'est le titre de votre conférence.
Oui.
Donc,
en Australie, il y a une frontière. La frontière, c'est le bitume. Vous êtes sur des routes normales. Vous êtes avec beaucoup de vacanciers en 4x4, avec des grosses caravanes derrière, beaucoup de voyageurs un petit peu en voiture normale. Et puis tout d'un coup arrive la piste. Et la piste, là, d'abord, ces petites voitures ne peuvent pas y aller parce qu'elles vont pas s'en sortir. Donc là, vous entrez sur la piste et là, c'est l'aventure qui commence. C'est la poussière, c'est la saleté et puis la tôle ondulée. Et on va avoir des rivières à traverser, donc c'est la vraie aventure. Et là, à partir de ce moment-là, vous rencontrez la nature vraie, parce que les animaux, c'est pas au bord des grandes routes qu'on les voit, on en voit, mais ils sont souvent écrasés. Et donc là, on voit la vraie nature. Et puis on rencontre des gens qui sont vraiment typés, quoi, des Australiens, des vrais cow-boys, des vrais gens qui ont cet art de savoir se débrouiller partout, de savoir être autonome. Donc des vrais aventuriers, au sens vrai du terme.
Alors, puisqu'on vous met sur la piste de ces cow-boys aussi. Mmh. Donc faire un périple comme cela, puisque vous êtes allé jusqu'à Broome, et là vous étiez à l'intérieur des terres. Donc vous avez fait ce chemin de piste de rêve.
Qui s'appelle la Savannah Way, la route de la savane.
Qui n'a pas l'air, d'après votre film, complètement facile non plus.
Oui,
mais
oui,
est-ce qu'on risque sa vie sur ces pistes-là?
Moi je l'ai risqué plusieurs fois. Hein. Quelquefois vous faites confiance, vous dites ça va. Surtout que ces pistes, elles sont longues. Quelques-unes dépassent le millier de kilomètres. Donc, on roule. Et puis, mine de rien, on s'aperçoit qu'on est à 80. Et tout d'un coup, un jour, eh bien, il y avait une tranchée dans le milieu. Le véhicule a bondi. Et là, j'aurais aimé être caméraman pour me filmer en face parce que je vous assure que mon véhicule, il a décollé d'un mètre de haut, à peu près. Et je suis retombé là-dessus et on s'est arrêté après. Je me suis dit, j'ai sûrement cassé quelque chose. J'ai rien cassé. Et c'est là qu'il faut un 4x4 parce que le 4x4, c'est du solide, quoi. Wouah! Et il y a une fois, on a pris un raccourci entre deux pistes. Eh bien, on a chassé dans un virage et j'ai fait un tête-à-queue et là, ça a failli très mal se terminer. Par chance, j'ai réussi à m'arrêter sur le bas-côté. J'ai déjà eu des histoires de dérapage, donc je savais un petit peu anticiper pour un peu rattraper. Mais honnêtement, ça tient qu'à un fil, quoi. Et là, après coup, j'ai eu des sueurs froides parce que sur cette piste, sur beaucoup de pistes, il y a 2 ou 3 personnes qui passent par jour. Donc, vous pouvez avoir quand même des chances d'être récupéré. Et là, sur celle-là, vu que c'était un raccourci de quelques centaines de kilomètres entre deux pistes, là, c'était pas sûr que j'avais peut-être même pas une personne par jour.
Quoi. Donc, SOS dépannage, ça fonctionne pas très bien, c'est ce que vous voulez nous
terrible,
dire.
Non, non.
Et
non,
il faut partir avec des provisions de d'essence.
Ben voilà.
Ou de gazole.
Bon, alors là, j'avais 2 jerrycans de gazole, j'avais 25 litres d'eau. 2 roues de secours, plein d'outils.
De la nourriture ?
Bien sûr, la nourriture, bon, pour survivre 4 jours, quoi, à peu près, éventuellement plus, s'il faut. Quoi.
Et donc, il vaut peut-être mieux partir à 2 voitures, 2 véhicules que tout seul ?
L'idéal, oui. Mais nous, on était toujours tout seul. Ma femme et moi, je suis voyageur solitaire, indépendantiste. Bah, c'est dur de... Déjà, avec sa femme, on n'est pas toujours d'accord. Avec deux voitures, c'est très très bien, justement, si on doit affronter des zones de grande solitude. Par exemple, les déserts du centre, je n'irai pas tout seul. Ou alors, il me faudrait un téléphone satellite. Et donc, dans les déserts, oui, il faudrait mieux être à deux. Là, c'est plutôt de la pierre, de la pierraille. Quelquefois, je suis tombé dans de la boue. Donc là, c'est moins amusant du tout, parce que vous savez pas si elle va durer 2 kilomètres ou 200, quoi. Donc là, déjà, c'était pas très joyeux. Mais bon, en général, on est prévenu, il faut toujours communiquer. Avant de se lancer sur la piste, on va voir quelqu'un, on essaie de voir, on attend, on s'informe pour savoir si ça passe.
Alors, l'information, ça passe par quel
moyen ? Le bouche à oreille. On va voir à la station des services juste avant, parce qu'en général, quand on sort de ces pistes, on va chercher de l'essence. Ou au moins, on va fêter
le coup. Et il y a une signalisation quand même.
Oui, quand la piste est vraiment mauvaise, ils mettent des barrières. Ils vous disent que la piste est pas praticable, ils mettent des barrières.
Et dans ce cas-là, on fait machine arrière ?
On fait demi-tour, oui, oui. Ou alors, si on est fou, si on veut braver, on peut y aller, mais on sait qu'on prend tous les risques, là. Les Australiens rigolent pas trop, c'est-à-dire que je me suis aperçu que quand ils mettent une barrière pour dire que ça passe pas, ça passe vraiment pas, hein, parce qu'ils ont tous des 4x4, hein. Donc ils savent bien les conduire, donc quand ça passe, et quand ils mettent la barrière, ça veut dire que ça passe pas, vous pouvez leur faire confiance.
Alors on va faire une pause musicale pour faire retomber un peu la pression. C'est une musique donc locale.
Très douce, c'est un aborigène qui est aveugle, qui a gagné les Music Awards en Australie il y a quelques années. Il s'appelle Gurumul Yudupingu, et il a une voix d'une douceur, et suite à ce grand prix, eh bien, il est devenu vedette, évidemment. Il a fait une tournée étrangère, il est même venu en Europe, il est venu à Paris, et je crois que l'écouter, c'est tout comprendre.
Allons-y pour papa.
Entretien, Anne Constantin.
Jean Charbonneau, nous revenons en Australie. On va commencer par la végétation de cette région. Végétation, tout est immense. Hein.
La végétation est partout très spectaculaire. Quand on est au nord-est de l'Australie, sur le Cap York, C'est ce qu'on appelle la rainforest là-bas, c'est la forêt humide. Donc il pleut très souvent et vous avez des figuiers qui sont géants, qui datent de, certains ont plus de 800 ans, avec des racines aériennes, tentaculaires,
Eucalyptus aussi.
Oui, alors beaucoup d'eucalyptus en Australie, des termitières, ça c'est autre chose, mais c'est vous dire le dépaysement.
Des gommiers aussi.
C'est une sorte d'eucalyptus le gommier, hein. Des acacias aussi beaucoup. Bon, ça respire bon déjà, c'est une bonne odeur. Hein. Et puis ce qui est.
Les forêts impénétrables.
Oui, alors dans le nord-est, c'est impénétrable, oui, parce que vous avez plein de lianes, racines tentaculaires, mais des lianes en plus. Et il faut être très observateur, et vous voyez qu'il y a des sortes de fougères qui trouvent refuge à 10-15 mètres de haut pour essayer de gagner de la lumière, qui montent, parce que certains arbres vont jusqu'à 50-60 mètres de haut. C'est pas les plus hauts en Australie se trouvent en Tasmanie, où là, on arrive à 90 mètres
alors,
de haut.
Alors la Tasmanie, c'est une île détaché.
Voilà, donc, au sud du continent australien.
Avec ses caractéristiques propres.
Propres.
Voilà. Et ses animaux.
Et ses animaux aussi, qui sont différents un petit peu.
Alors là, on a parlé de végétation. Donc végétation, là, pour le coup, tropicale, celle oui. que vous nous montrez avec abondance.
Oui.
Surprenante, hein,
un peu
étrange. Et, alors des animaux qu'on ne trouve qu'en Australie.
Oui, à commencer par les marsupiaux.
Alors, marsupiaux, dites-nous un peu ce que c'est.
Eh bien, les marsupiaux, c'est ceux qui ont
une poche. Le kangourou, voilà.
Alors, le principe est assez simple. Chez les marsupiaux, la gestation est très courte. Chez certains marsupiaux, c'est 15 jours seulement. Et donc, on sort non pas un nouveau-né, mais un embryon. Et l'embryon va ramper jusqu'à la poche qui est ouverte au monde. Et là, il va glisser dans cette poche. Alors, quelquefois, il ne réussit pas à atteindre la poche. Il tombe et il meurt.
Il est tout seul.
Et il se débrouille tout seul. Et bon, chez les kangourous, la mère, paraît-il, lèche un peu le ventre pour lui montrer le passage. En tout cas, en ce qui concerne ces marsupiaux, donc le petit va se retrouver dans la poche et il aura des tétines dans la poche. Chez les kangourous, il y a 4 tétines. Et il va sucer sa tétine. Il va être accroché à une seule tétine, en réalité. Et il va grandir, et puis arrivera un moment où il va risquer un œil en dehors de la poche, il va sortir deux pattes, et puis au bout d'un moment, il va dire, bah tiens, je vais aller voir.
Et il revient.
Et il sort, et puis dès qu'il y a un petit danger, un petit souci, tout de suite, il retourne dans la poche. Donc ça, c'est extraordinaire. Et alors, dans mon film, j'ai une chose extraordinaire, franchement, j'ai réussi à filmer dans la poche d'un kangourou. Eh oui. Alors, bon.
Avec l'autorisation de la mère.
Avec l'autorisation de la mère. Alors bon, c'est une petite histoire. En fait, ce tout petit moment a été filmé en France. Parce que j'ai des amis qui tiennent le plus grand jardin des kangourous en France, qui se trouve en Pays de Loire, à la Poissonnière. Donc, c'est dans le Maine-et-Loire. Et donc, faut aller les voir, hein, 150 wallabies en réalité. Et ils avaient, de temps en temps, ils ont un kangourou qui est aveugle. Ça arrive. Et donc, comme ils sont visités, donc ils n'ont pas peur des humains, donc on fait une subversion, on lui tend des petites branches, il grignote tout ça, il est tout content. Et pendant ce temps-là, ben, on regarde dans la poche.
C'est un subterfuge.
Voilà, c'est un subterfuge. On peut pas le faire avec des sauvages, évidemment, c'est impossible. Donc là, j'ai pu filmer avec une toute petite caméra ce petit kangourou en train de téter dans la poche. Donc c'est vraiment extraordinaire. Hein. J'en rêvais, je l'ai fait, quoi.
Alors, puisque vous parlez des animaux et de l'homme, une femme, vous avez pris une femme dont le sacerdoce c'est de s'occuper d'aller à la recherche des animaux malades et faibles.
Un jour dans le Nord, on voit une petite annonce dans un office du tourisme. Je recueille des kangourous blessés, venez me voir, j'accepte les dons évidemment. Et voilà. Et on est allé la voir et nous a dit, écoute, il faut, si ça t'intéresse, il faut que tu ailles voir Linda. Linda, c'est la très très grande spécialiste du kangourou en Australie. Elle a fait un bouquin qui fait 5-6 cm d'épaisseur. C'est la Bible du kangourou. Alors on s'est dit, Linda, ouais, bon, d'accord. Et puis, au Cap York, on revoit une dame sur un marché avec un kangourou dans les bras. On la filme, on lui dit bonjour, on sympathise. Elle nous dit, oui, mais moi, c'est bien, mais il faut que tu ailles voir Linda. Alors ça en faisait deux. Donc Linda, on a fini par avoir ses coordonnées, c'est complètement de l'autre côté, à l'est. Et donc, on est allé voir Linda Stacker, elle s'appelle. On a passé un après-midi avec elle. Et effectivement, c'est une dame très sympathique, mais une très, très grande connaisseuse des kangourous. Elle passe sa vie maintenant à faire des conférences sur les kangourous partout, y compris aux États-Unis, dans le monde entier. Donc, et elle nous a dit, écoutez, mes kangourous, j'en avais, mais je ne peux plus m'en occuper. C'est Yvonne qui les a. Allez voir Yvonne. Et quand on est arrivé chez Yvonne, qui est encore quelques 400 kilomètres plus loin, on a compris le personnage. Extraordinaire. Elle a des gestes qui sont d'une souplesse. Elle connaît les kangourous, j'allais dire, comme sa poche. Donc,
Il y a beaucoup d'amitié entre ces
deux. Absolument. On a été impressionnés la façon, et je crois que les spectateurs le seront aussi. D'ailleurs, j'ai souvent des réactions quand on voit cette séquence. Comment elle connaît les kangourous? Elle les connaît par cœur. Elle connaît tout. Et alors, elle est un centre de renseignement parce que, en réalité, c'est pas elle qui court pour aller chercher les kangourous blessés. Ce sont les gens qui lui téléphonent, qui disent, eh ben, j'étais sur telle route à 400 kilomètres d'ici et puis on a vu un kangourou qui était mort. On a fouillé dans la poche. Il y a un tout petit Joy, comme on les appelle. Il est tout petit, alors tout de suite, elle dit, il fait quelle longueur, mesurez ça, ça et ça. Il dit, bon, il attend de moi, alors voilà ce qu'il lui faut. Il va falloir vous lever à 3h du matin, ensuite à 6h, voilà, et tout. Et donne toutes les consignes par téléphone.
Alors, dans la catégorie donc des animaux, nous avons vu des animaux sympathiques, des marsupiaux, on s'attache à eux. Il y en a d'autres qui sont quand même un peu moins sympathiques, les crocodiles.
Oui. Alors, en fait, il faut apprendre à les connaître pour mieux s'en prémunir, je dirais, hein. Parce que ce sont Crocodylus porosus, son nom latin, le salty. On l'appelle le salty parce que c'est un crocodile d'eau salée et saumâtre. Quand la saison des pluies arrive dans le nord tropical, tout est inondé. Et donc, ces crocodiles remontent à l'intérieur des terres jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Donc vous pouvez les retrouver en pleine nature, parce qu'après, quand la sécheresse arrive, il se crée ce qu'on appelle des billabongs, c'est-à-dire des bras de rivière asséchés, et il reste de l'eau un peu. Et donc là, attention, parce que il y a peut-être des salties qui sont coincés là. Et donc, quand ce sont des endroits un peu touristiques, eh bien ils mettent des pièges à crocodiles, pour essayer de les capter, pour pas qu'ils bouffent, qu'ils mangent les touristes, évidemment.
Parce qu'ils sont très méchants.
Ah bah oui, d'abord c'est un animal de sang froid, donc il se nourrit quand c'est la saison sèche, c'est-à-dire la saison un petit peu plus froide, on est autour de 25 degrés, 23-25 degrés, donc il n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. J'ai été surpris, dans un parc animalier on m'a dit qu'on lui donnait un poulet par mois, vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup hein, pour une bête qui fait 5 mètres de long hein. Donc, il mange très peu. Par contre, si vous vous retrouvez en saison des pluies, là, il est surexcité parce que c'est la saison des amours. Il fait 35 degrés, 30-35 degrés. Donc là, il faut qu'il consomme. Donc ça, c'est une chose. Il consomme plus ou moins. Donc, il n'est pas, on va dire qu'il ne pêche pas forcément par gourmandise quand il vous attaque. C'est pas forcément pour vous manger. Par contre, c'est un animal très territorial. Et donc, si vous rentrez sur son territoire, ça lui plaît pas. Donc, il va vous éjecter. Et comme il a une grande gueule, c'est pas par la parole, ça sera par les dents.
Alors, vous vous êtes fait peur en le filmant?
Oui, un peu, ouais. Quelquefois, une fois, on s'arrête comme ça, on voit un petit point d'eau, et puis je me mets, j'avais envie de satisfaire des petits besoins. Et je me mets là à uriner, et puis là tout d'un coup un énorme plouf, bon sang, c'était un salty qui était là, j'ai pissé dessus, et heureusement il m'a pas sauté dessus, c'était un peu en contrebas, il est parti vite fait, mais bon, ça fait un peu peur. Quoi. Et une fois je suis arrivé dans un camping à Kakadu, c'était en pleine saison des pluies, les dames de l'accueil m'ont dit, attention, ne plantez pas votre tente trop près de l'eau, éloignez-vous parce que il y a 15 jours de ça, il y a des gens qui sont arrivés vite fait ici, ils ont vu un salty attaquer un cheval sauvage. Donc là, attention, ça rigole pas. Là.
Alors revenons à d'autres animaux plus sympathiques et surtout très rares, puisque l'ornithorynque, un animal préhistorique, eh ben ça ne vit
qu'en Australie. Eh oui, il fait partie de cette catégorie extrêmement rare qu'on appelle les monotrèmes. Ils sont ovipares comme les oiseaux, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs, mais ils sont mammifères. Ils ont une poche.
Et des mamelles.
Donc voilà, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle l'échidné, qui ressemble à une sorte de gros hérisson. Et l'autre qui est l'ornithorynque. Et comme je dis dans mon film, que les anglophones, bien moins forts en dictée, appellent platypus. C'est plus facile à écrire platypus qu'ornithorynque, n'est-ce pas?
Alors, l'ornithorynque est plutôt dans l'eau?
Toujours. En réalité, il est comme un peu comme un ragondin. Il a un terrier qui est sur les berges. Et il sort le matin et le soir. Et donc, comme il n'a pas de branchie, évidemment, il faut qu'il respire. Donc, il s'en va fouiller le fond de l'eau. Il a un grand bec plat. Donc, il fouille, il remue toute la boue, les gravillons, tout ça. Et il sort des petites crevettes, des petites bestioles, des petites, voilà, tout ce qui habite au fond de l'eau. Et de temps en temps, il remonte pour respirer. Donc, il remonte quelques secondes. 10-15 secondes, et puis hop, il refait un plongeon.
Voilà. Alors, l'autre préhistorique, c'est l'échidné, qui lui est sur la terre.
Oui. Alors, lui, c'est un animal très timide. Hein. Il faut être très patient pour le voir, parce que...
Et donc, vous nous en montrez?
Oui, je vous montre des échidnés. Quelquefois, c'est un peu raté, parce qu'il s'aperçoit de votre présence, et donc il se bloque, il se fixe, et puis il commence à creuser, et il s'enfonce dans le sol.
Alors, ces deux animaux préhistoriques sont bien sûr protégés?
Parce oui, absolument.
Il y a eu des désastres
Pour les kinés, l'ornithorynque, pas vraiment. Le problème, c'est le développement humain, quoi. Notamment l'ornithorynque, il est très sensible à la pollution. Et il y a des endroits où les ornithorynques étaient présents. Et puis, progressivement, ils ont déserté ces endroits-là parce qu'il y a un petit peu trop de gens à passer dans le coin, à venir les voir. Donc, il faut être extrêmement silencieux. La consigne est donnée partout où on sait qu'ils sont. La consigne est donnée de faire aucun bruit, quoi. Et de pas batifoler comme ça.
Puis alors, il y a un autre animal. On peut pas dire qu'il soit ni timide, ni qu'il parle pas. C'est l'huître. Mais elle fait des perles.
Ça, c'est une belle piste de rêve, celle-là. Parce que vous imaginez des huîtres au fond de l'eau qui sont toutes plates.
Qui ressemblent à des...
Coquilles Saint-Jacques, peut-être, ouais. Hein, parce qu'elles sont très plates, plus plates que la coquille Saint-Jacques, très ronde, et plus grande que la main. Mmh. Et bien, les hommes qui fouillent tout, qui grignotent tout et qui mangent tout, ont ouvert un jour ces huîtres, les ont mangées, et puis se sont aperçus que chez certaines huîtres, il y avait des petits bouts qui étaient nacrés. En réalité, c'est des imperfections qui sont rentrées dans l'huître. Et l'huître, n'arrivant pas à s'en débarrasser, elle les a incorporées à elle-même. Donc, elle a créé de la nacre tout autour. Donc, avec les années, il s'est formé une perle. Mais à l'époque, c'est-à-dire au 19e siècle, sur 1000 huîtres massacrées, ouvertes, il y avait une perle. Donc, vous voyez le déchet.
Le rendement s'est nettement amélioré.
Voilà, parce qu'il y a un Japonais qui, évidemment, était très malin. Et il a fait ses petites expériences. Et il a trouvé une façon d'insérer dans l'huître, ce qu'on appelle des nucléus, des petites billes.
L'huître
fabrique des nacres.
Des huîtres, des perles de culture.
Eh bien, exactement.
Et c'est une grande industrie, là, un grand commerce.
Ce sont les plus grandes perles du monde.
Et les plus chères.
Et je montre un collier de 53 000 $.
Vous ne l'avez pas offert à votre femme?
Vous n'avez pas une autre question, là?
Alors, on l'a compris, donc, l'Australie, c'est votre pays maintenant, devenu votre deuxième pays.
Pays d'adoption. D'adoption. J'aime bien me perdre dans la nature australienne.
Les hommes, c'est aussi, vous les aimez quand même?
Oui, absolument, oui. Mais les hommes nature, ceux qui sont bruts de décoffrage.
Les aborigènes, comme les
bons cow-boys du bush, là, les gens sont très nature. C'est très sympathique. Moi, je suis d'origine paysanne. Et j'aime bien ce contact assez simple, somme toute, et vrai.
Alors, Jean Charbonneau, c'est le retour à la nature en Australie. Merci.
Je vous en prie. À bientôt.
Avec des rêves.